je commence. Bienvenue à tout le monde. Alexis Delamarre et moi-même, on est très heureux donc de vous retrouver pour cette huitième et dernière séance du séminaire de philosophie de Rouen, hein, pour cette année universitaire. Je rappelle donc que la séance est enregistrée en audio et donc tous les audios d'ailleurs de l'année sont accessibles désormais sur le site du laboratoire de l'ERIAC. Et donc j'ai mis l'adresse mail dans le chat. Alors malgré la distance et les conditions virtuelles que nous a imposé la situation sanitaire dans la tenue donc de nos séances, évidemment la saison a été riche et stimulante philosophiquement. Et c'est pourquoi avec Alexis on envisage de relancer le séminaire de philosophie l'année prochaine. Et donc, normalement, on pourra même peut-être avoir l'opportunité de vous revoir en présence, en présentiel, donc directement sur le campus de Rouen. Donc, on vous communiquera évidemment les dates et le calendrier au plus vite. Mais voilà, c'est le projet, c'est de relancer donc ce séminaire. En attendant, donc c'est avec une très grande joie qu'on reçoit aujourd'hui donc Charles-André Mangenet. Charles-André, tu es doctorant à Paris 1 sous la direction de Renaud Barbaras et ta thèse s'enracine dans les pensées de Jean-Paul Sartre, Jan Patochka et Michel Henry. Et elle porte sur la phénoménologie de la pratique, l'appartenance comme fondement de l'existence humaine. Et justement, ce soir, tu vas, j'ai l'impression, donc concentrer toute ta présentation sur la pratique chez Patochka. Tu as intitulé « Une tentative de description phénoménologique de notre appartenance au monde ». Et donc, normalement, donc sans doute peut-être au cours de la séance, on a normalement la chance d'avoir aussi parmi nous comme discutant un connaisseur de la phénoménologie de Jan Patochka, c'est Ovidiu Stanciu, hein, qui est maître de conférence, lui, à l'université Diego Portales à Santiago du Chili. Voilà, donc c'était très rapide, mais voilà, donc je souhaite une bonne séance à tout le monde et je te cède la parole tout de suite, Charles-André. Voilà.
Eh bien, merci beaucoup. Alors, moi, je vous remercie beaucoup, donc toi, Aurélien et Alexis Delamarre, de m'avoir invité pour clore ce cycle de conférences de philosophie. Et évidemment, je remercie aussi Ovidiu, s'il se connecte à mon ou à l'autre, d'avoir en tout cas au moins accepté de venir pour parler de mon travail avec moi. Voilà, alors je vais sans plus attendre commencer parce que j'ai pas mal de choses à vous dire. Alors, je commence sans plus attendre. Comme l'a dit Jean-Luc Marion dans Figure de la phénoménologie, page 94, la phénoménologie peut se définir comme une méthode destinée, je cite, à provoquer à la phénoménalité de nouveaux champs d'investigation pour y installer à demeure des phénomènes qu'aucun œil n'avait jusqu'alors constitué ni non vu, fin de citation. Eh bien, la thèse que je voudrais défendre aujourd'hui, c'est que Patochka fait bien œuvre de phénoménologie, ou de phénoménologue en tout cas, parce qu'il a, et c'est ce que j'aimerais démontrer, provoqué à la phénoménalité un nouveau champ d'investigation, rien que ça, un champ d'investigation que moi j'appellerais précisément le champ de la pratique. Alors, qu'est-ce que j'entends d'abord par là? Qu'est-ce que je mets sous ce terme de pratique? Alors, je voudrais dire immédiatement que j'entends la notion de pratique ici au sens prescrit par la grammaire usuelle du terme, au sens où on parle de la pratique d'un instrument, d'un art, d'un sport, d'une discipline, etc. Et de cette notion usuelle de pratique, nous avons tous une pré-compréhension, hein, pour utiliser un terme un petit peu heideggerien. Et cette pré-compréhension, au fond, enveloppe un trait caractéristique remarquable de la pratique telle qu'on la conçoit couramment. Et en ce sens, le propre de la pratique, c'est une chose assez précise, c'est au fond que sa richesse, la richesse d'une pratique, enveloppe toujours son irréductibilité à l'élément de la présentation théorique. En d'autres termes, il est par essence impossible d'élever le contenu d'une pratique à la discursivité. Ce qui revient très concrètement à dire que le faire qui qualifie au fond en propre une pratique se reconnaît à ce qu'il ne délivre son contenu qu'à celui qui le refait, si j'ose dire, de l'intérieur. Ce n'est qu'en faisant qu'il nous devient possible de faire, et ce n'est qu'en faisant que l'on peut accéder à ce que cela fait que de faire ce qu'on fait. C'est aussi simple que ça. Et si j'ose dire, à ce titre, l'expérience pratique paradigmatique est une expérience négative, en réalité. Vous savez, c'est l'expérience qu'on fait lorsqu'on nous montre quelque chose ou qu'on nous explique comment faire quelque chose et on se dit « Ah, mais ça ne doit pas être si compliqué de faire cette chose qu'on nous demande de faire. Et avec la seule explication ou la seule monstration à distance, en réalité, on se rend compte qu'on n'y arrive absolument pas. Et on échoue lamentablement à faire ce que l'on pensait être extrêmement simple à faire. Donc ça, c'est un petit peu l'idée. Alors, pour le dire plus conceptuellement maintenant, nous avons tous une pré-compréhension du phénomène, du domaine de phénoménalité que peut constituer la pratique, en ce que, un, nous savons tous et toujours déjà, en réalité, l'impuissance de la représentation à rendre puissant, ou l'incapacité du savoir à rendre capable. Ça, c'est au fond quelque chose de tout à fait essentiel, puisque aucune explicitation discursive d'une pratique ne rendra dépositaire de la puissance de l'exécuter. Tout le monde sait qu'il ne suffit pas de se faire expliquer comment jouer de la guitare pour savoir en jouer effectivement. Ça, c'est la première chose. Et deuxième chose, nous savons également que si la compréhension ne rend pas capable de faire, c'est inversement parce que seul le faire rend capable de comprendre. Il va donc de l'essence de la pratique que l'immanence, c'est-à-dire l'appartenance du pratiquant à la pratique qu'il pratique, soit sa condition d'intelligibilité. Simplement, il faut faire pour savoir ce que faire signifie, pour savoir ce que ce faire-là signifie. Pour le dire autrement, la pratique est sans dehors, et la phénoménalité qu'elle recèle ne se révèle qu'à celui qui, sur lui, peut la refaire, et précisément de lui appartenir. Alors, la thèse que je veux soutenir ici, c'est que Patochka est le phénoménologue qui a élevé, sans la trahir, cette immanence pratique à la phénoménalité, si je veux dire. C'est celui qui aura, enfin, qui, à mon sens, ce que je vais essayer de montrer, qui a réussi à en détailler la structure eidétique, hein, la structure d'essence. Si je veux dire. Et il serait ainsi parvenu à faire ce que Elisabeth Anscombe s'était interdite de faire elle-même, c'est-à-dire d'introduire, et je cite Anscombe, paragraphe 32 d'intention, d'introduire un étrange œil qui regarderait au milieu de la gîte. Ben, en réalité, pour le dire très simplement, je pense que Patochka a réussi à introduire, sans précisément trahir la pratique, un étrange œil qui regarderait de l'intérieur ou au milieu de la gîte. Voilà la première idée, voilà un peu la direction. Mais si Patochka parvient en réalité à circonscrire un tel domaine d'investigation phénoménologique, ça n'est certainement pas par simple curiosité. C'est au contraire, et ça c'est la deuxième thèse au fond que je vais essayer de soutenir ici, c'est au contraire pour régler un problème phénoménologique, ou plutôt un problème qui appartient à la phénoménologie elle-même. Et c'est un problème qui est en réalité relatif au coût, qui est relatif ni plus ni moins aux conditions de possibilité de l'appareil. Alors, quel est ce problème? Au fond, ce problème phénoménologique, ou ce problème de la phénoménologie, on se présente sous la forme d'un dilemme qui, comme tout dilemme, contient deux thèses à la fois nécessaires chacune et pourtant contradictoires entre elles. La première thèse qui forme, au fond, ce dilemme de la phénoménologie, dilemme auquel la notion de pratique, que la notion de pratique va permettre de dissoudre, et la thèse fondatrice de la phénoménologie, si j'ose dire, de la nécessité d'une distinction radicale de l'apparaître et de l'apparition. Ça, c'est la première thèse, au fond, qui va servir à construire le dilemme phénoménologique, dilemme auquel la pratique va, enfin, dilemme que la pratique va permettre de dire. Cette thèse, donc, de distinction radicale de l'apparaître et de l'apparissant, c'est en un sens la thèse architectonique de la phénoménologie, thèse dont on trouve une première formulation dans la cinquième recherche logique. Puisque Husserl établit explicitement, et je cite sa cinquième recherche logique, que l'apparition de la chose n'est pas la chose apparaissante, c'est-à-dire que les phénomènes eux-mêmes n'apparaissent pas et qu'ils sont vécus. Fin de citation. Cette thèse signifie exactement ceci. Elle nous dit que c'est précisément parce que la conscience ou le phénomène ou l'apparaître n'est pas un apparaissant qu'elle peut faire apparaître un apparaissant qu'elle n'est pas. Ce qui revient très simplement à dire, si vous voulez, que la phénoménologie ne nie pas qu'il y ait des choses ou des faits, mais qu'elle nie simplement qu'il n'y ait que des choses ou des faits, ceci parce qu'il est absolument nécessaire que pour qu'un fait ou une chose soit donné, et donc qu'un apparaissant apparaisse, il est nécessaire qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas donné, à savoir la donation même de ce fait, c'est-à-dire l'apparaître. Nous avons donc ici la thèse fondamentale de la distinction entre l'apparaître et l'apparaissant. Pour que l'apparaître puisse faire apparaître un apparaissant, il faut que cet apparaître n'apparaisse pas lui-même sur le mode de l'apparition. Et cette thèse phénoménologique entraîne immédiatement une conséquence ontologique. Une conséquence ontologique qui est au fond très classique. À savoir que l'apparaître ne peut assurer sa fonction de manifestation qu'à s'inscrire en rupture radicale à l'égard de la totalité de l'apparition. précisément, si la conscience doit faire apparaître la nature, elle ne peut qu'être surnaturelle. Aussi simple que ça, si je veux dire. Et si un... Ce qui signifie donc que la phénoménologie se positionne dès sa naissance en faveur d'une thèse qu'on pourrait nommer de manière assez aristotélicienne une thèse de l'équivocité de l'être, puisque si l'apparaître doit radicalement se distinguer de l'apparaissant pour le faire apparaître, il faut au moins que l'être se dise de deux manières différentes, qui n'aient absolument rien à voir l'une avec l'autre. Et vous savez, c'est là la thèse extrêmement classique de ce fameux abîme de sens entre la région conscience et la région monde, que Husserl thématisera dans les idées. Ainsi, pour le dire très simplement, la première thèse qui va constituer le problème fondamental de la phénoménologie et le problème que Matouchka va résoudre grâce à la pratique, est, si vous voulez, la thèse que l'apparaître doit s'opposer à l'apparaissant pour pouvoir s'opposer à l'apparaissant. C'est-à-dire qu'il ne doit avoir rien de commun avec l'apparaissant pour pouvoir le faire apparaître. Voilà l'idée. Et si vous voulez, c'est la thèse que reprendra Matouchka, et je cite Matouchka ici. Au fond, la citation que je vous donne enveloppe et résume tout ce que je viens de vous dire. Je cite Matouchka, donc dans Le monde naturel et le mouvement de l'existence humaine, page 112. Il dit, je cite, le rapport humain à la totalité signifie qu'il y a chez l'homme une révolte contre la totalité, une dissension avec elle. La vie humaine est à vrai dire une vie contre la totalité. Fin de citation. Donc, voilà l'idée précisément, l'apparaître doit s'opposer à l'apparaissant pour pouvoir s'opposer à l'apparaissant. Il doit ne pas le monde pour pouvoir le faire apparaître et s'en extraire. Si telle est donc la première thèse constitutive du problème fondamental de la phénoménologie, cette dernière ne tardera pas pourtant, donc la phénoménologie précisément, cette dernière ne tardera pas à y ajouter une seconde thèse qui est pourtant radicalement antinomique avec la première. Thèse que reprendra également Matouchka et que je vous livre immédiatement histoire de faire ressortir la tension problématique. Je cite Matouchka dans Le monde naturel comme problème philosophique, cette fois-ci, page 170. Matouchka dit la chose suivante. Il dit, le problème du monde implique qu'une partie de l'étang se rapporte à l'étang en totalité. Fin de citation. Donc là, vous avez exactement la thèse contraire que Matouchka soutient également. C'est-à-dire que le problème du monde, à savoir comment est-il possible que quelque chose puisse faire apparaître le monde, implique précisément qu'une partie de l'étang se rapporte à l'étang en totalité. Autrement dit, ça suppose que ce qui fait apparaître, ce qui apparaît, appartient au domaine de l'apparition lumineuse. Et donc, à l'encontre de la thèse précédente, ça signifie que toute manifestation suppose au contraire une parenté ontologique entre l'apparaître et l'apparissant, de sorte que seul ce qui appartient à l'être pourrait manifester l'être lumineux. Et en effet, c'est une thèse qui va de soi également, puisqu'on peut se poser la question de savoir comment la manifestation de l'apparaître, qui est un rapport en réalité, pourrait se nouer entre des êtres qui différeraient radicalement en nature. Comment, si l'apparaître n'avait rien à voir avec l'apparaissant, si la conscience n'avait rien à voir avec le monde, celle-ci pourrait-elle encore nouer un rapport de manifestation avec lui? En réalité, on le sait bien, tout rapport, même un rapport de position, fait toujours fond sur une communauté plus fondamentale qui permet aux opposés de s'opposer. Et là, si vous voulez, on retrouve l'essence de cette deuxième thèse qui constitue ce dilemme radical de la phénoménologie. On renoue avec cette vieille idée d'Empédocle, vous savez, d'après laquelle seul le semblable peut connaître le semblable. Thèse qui a fait dire également à Goethe dans Traité des couleurs que si l'œil pouvait voir la lumière, c'est qu'il devait être solaire, c'est-à-dire lui-même fait lumière. Et c'est exactement cette même thèse que convoquera Romani, en quelque sorte, la phénoménologie, puisque, selon elle également, seul un étang peut avoir un rapport à l'étang, ou seule une chose peut connaître une chose, ce qui revient à dire que ce n'est que parce que nous sommes choses parmi les choses que celles-ci peuvent se donner et se manifester à nous, puisque aucune perception ne serait imaginable sans un corps propre depuis lequel elle a lieu. Et donc vous avez ici la thèse exactement... Vous avez la thèse antinomique à la thèse précédente, à savoir qu'il faut être une chose pour avoir un rapport aux choses et que donc il ne faut pas du tout, enfin il faut en quelque sorte un rapport de communauté fondamentale entre l'apparaître et l'apparaître, face à l'apparaître et l'apparaître. Ce qui revient exactement à dire que ce que le Pontier a très bien démontré, qu'il n'y a perception que pour un être charnel, corporel. Alors vous voyez ici que il y a un dilemme phénoménologique fondamental qui tend à manquer la manifestation, bien par excès ou bien par défaut. C'est-à-dire que si on tend à dramatiser la différence de l'apparaître et de l'apparaissant, on perd la possibilité même du lien entre l'apparaître et l'apparaissant. Mais si on, au contraire, on tend à minimiser cette différence entre fait de l'apparaître et un apparaissant, au fond, on perd également la manifestation, puisque, on le sait bien, un apparaissant ne veut pas en manifester un. Donc vous avez ici ces deux thèses qui jouent, si j'ose dire, l'une contre l'autre, la thèse de la vie contre la totalité, ou la thèse de la transcendance de l'apparaître, et la vie dans la totalité, ou l'immanence de l'apparaître. Voici un peu les deux thèses et que Patochka soutient en même temps, ce qui a d'ailleurs fait dire à pas mal de commentateurs qu'il était contradictoire. Alors ce que maintenant je voudrais soutenir en deux moments, si j'ose dire, c'est que la description en réalité de la structure phénoménologique de la pratique va permettre, si vous voulez, de dissoudre ce dilemme, ou en tout cas de montrer que ça n'était qu'une aporie, et qu'il est tout à fait dépassable, en réalité. Et non même pas à la manière de Merleau-Ponty, si je veux dire, consistant à jongler entre les deux possibilités, à rectifier l'une par l'autre, mais là, il s'agit carrément de la dépasser, en réalité. Puisque la thèse patochkienne concernant la structure phénoménologique ou idéétique de la pratique va permettre à la fois de distinguer l'apparaître de l'apparaissant, tout en sauvegardant leur appartenance réciproque. Et c'est maintenant ce que je vais essayer de montrer. J'espère que c'est clair. Mais là, simplement, le plus rapidement possible, j'ai simplement essayé de, si vous voulez, détailler le problème qui donne sa consistance, son relief, en réalité, à l'innovation phénoménologique qu'a pu être, en tout cas à mes yeux, la découverte de la structure idétique propre de la pratique. Donc c'est dans ce cas-là qu'il faut comprendre le travail que je vais maintenant essayer de faire. Alors, dans un premier temps, pour comprendre la manière dont Patochka va thématiser la pratique, et surtout précisément en quoi cette dernière va nous permettre de sortir du dilemme phénoménologique de la transcendance et de l'immanence de l'apparaître, il faut, c'est le chemin que je vous propose, repartir des conséquences totalement inaperçues, à mon sens, alors vous me direz peut-être que ce n'est pas le cas, mais en tout cas, à mon avis, des conséquences totalement inaperçues par la tradition phénoménologique et la tradition critique, de la thèse, donc des conséquences, si vous voulez, de la thèse de la transcendance de l'apparaître en ce qui concerne la phénoménologie de l'action. C'est-à-dire, en réalité, puisqu'une grande partie de la phénoménologie se fonde sur la thèse de la transcendance de l'apparaître, c'est-à-dire sur l'altérité radicale de l'apparaître et de l'apparaissant, sur la rupture, si j'ose dire, de l'apparaître à l'égard de l'altérité de l'apparaissant, il faut repartir des conséquences que cette thèse-là va avoir quant à la conception phénoménologique de l'action. Car oui, il y a des tentatives phénoménologiques de description de la structure idéétique de l'action. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de repartir des phénoménologies de l'action qui ont été développées à partir de la thèse, si vous voulez, de la rupture entre l'apparaître et l'apparaissant. Alors, pour arriver à ces conséquences, je vous propose de parcourir l'enchaînement de 4 thèses, et 4 seulement, qui sont, en quelque sorte, qui constituent le chemin, en fait, qui vont de la rupture, si vous voulez, d'appartenance entre la conscience ou l'apparaître et la totalité de l'apparaissant, à la conception de l'action que cette rupture va nécessairement engendrer. Alors, je vous donne ces 4 thèses. La première thèse, c'est, si vous voulez, la thèse fondatrice de la phénoménologie que je reformule autrement, qui est la thèse de la déréification de l'appareil ou de la déréification de la conscience. Et là, c'est cette formule de Husserl que Bruno Barbarat, dans son introduction à la phénoménologie de Husserl, reprend, qui vient d'un manuscrit né de 1920, et je cite Husserl, d'après Barbarat, Husserl dit qu'il nous sauve de la réification de la conscience et le sauveur, voire l'inventeur de la philosophie. Fin de citation. Jusque-là, sa première thèse n'a rien de très neuf, il s'agit simplement de cette fameuse distinction entre l'apparaître et l'apparaissant. Qui apparaît doit bien faire apparaître une philosophie, qui ne veut pas lui-même être ce qui apparaît. Sans quoi il devient une apparence, il recouvre l'apparition. Rien de très neuf à ce niveau-là, si vous voulez, c'est simplement la notion de l'intentionnalité véritable. Voilà la première thèse. La deuxième thèse, et la thèse non plus de déréification de l'apparaître, mais la thèse de démondanisation de l'apparaître, si j'ose dire. Cette thèse est au fond la conclusion d'un syllogisme que je vous redonne, qui résume bien l'idée. On sait, d'après la thèse de la déréification de l'apparaître, que la conscience ne peut pas être une chose, pour faire apparaître les choses. Très bien. Or, le monde est ce qui contient une chose, donc, si la conscience ou l'apparaître n'est pas une chose, la conscience ou l'apparaître ne peut pas appartenir au monde. Voilà le syllogisme qui fait que s'il y a bien une vérification de l'apparaître, cette vérification de l'apparaître s'accompagne d'une démondanisation de l'apparaître. Ce qui fait apparaître l'apparaissant ne peut pas appartenir à la totalité de l'apparaître. C'est le raisonnement qu'on trouve en substance et qui est très bien établi par Scheller dans un livre, dans son dernier livre qui s'appelle « La situation de l'homme dans le monde », page 53 dans la seule traduction française que nous avons. Scheller dit la chose suivante, mais ce centre, donc là ce centre il parle précisément de l'apparaître, de la conscience, mais ce centre où l'homme accomplit ses actes par lesquels il objective le monde, ne peut pas être lui-même une partie de ce monde. Fin de citation. Vous voyez, pour avoir un rapport à l'étang, il faut précisément ne pas appartenir à la totalité du temps qui est le monde. Donc, thèse de démondanisation de la conscience à partir de la thèse de vérification de la part. Voilà la deuxième thèse. Mais cette deuxième thèse va amener elle-même à une troisième thèse, qui est non plus la thèse de vérification de l'apparaître, non plus la thèse de démondanisation de l'apparaître, mais ce que j'appellerais la thèse de la transcendance de la part. Cette thèse nous dit la chose suivante, elle nous dit que la seule manière pour la conscience d'échapper au monde, c'est d'en être l'origine, d'être l'origine du monde. Car on sait, si vous voulez, que rien n'échappe autant au naturé que le naturant. Rien n'échappe autant à sa création que le créateur. Et si vous voulez, c'est tout un d'affirmer que la transcendance est transcendance au monde et qu'elle est ce par quoi il y a monde. Hein ? C'est vraiment là la transcendance de l'appareil. La conscience, c'est tout un de dire que la conscience échappe au monde et que la conscience est origine du monde. Et cette transcendance, précisément, ne peut transcender le monde, y échapper, et en même temps le rendre possible en tant qu'elle est l'origine, que par, si vous voulez, le dépassement qu'elle opère, et donc par le projet dont elle est la source. D'où cette déclaration heideggerienne, vous savez, déclaration classique, disant que le Dasein est l'instance où s'origine le possible, que le Dasein est ce que Heidegger appelle l'Endverständnis von Möglichkeit, donc l'origine, la source d'envoi des possibilités. Et je cite Heidegger, paragraphe 76 du concept fondamental de la métaphysique. Heidegger dit précisément que le possible projeté par le Dasein est, je cite, la structure primordiale de l'événement fondamental qui est la configuration du monde. Configuration du monde, traduction de Weltbildung. Donc là, vous avez cette idée, au travers de cette espèce d'itinéraire qui va de Scheller en passant en allant jusqu'à Heidegger et qui vient en plus chronologique, de ces trois idées, vous voyez, de vérification de l'apparaître, démondanisation de l'apparaître et transcendance de l'apparaître. Et cette dernière thèse de la transcendance de l'apparaître va nous conduire en réalité à la conception nécessairement impliquée par ces trois thèses de l'action. Si vous voulez, je poursuis en disant que cette thèse de transcendance de l'apparaître, par laquelle effectivement la transcendance est l'origine du monde, ça implique également que puisque le projet est ce à partir de quoi il y a monde, de manière très figurienne, mais au fond c'est impliqué par ce que Searle et par ce que Searle, la possibilisation, c'est-à-dire la configuration du possible qui configure elle-même le monde, si vous voulez, doit venir du dehors, ne pas venir du monde lui-même. Ce qui signifie exactement que le projet qui configure le monde vient au monde sans venir de lui. Autrement dit, la transcendance qui donne son sens au monde ne doit pas ce sens qu'elle donne au monde auquel elle le donne. Si vous voulez. Et si vous voulez, ça, c'est pour le comprendre, c'est une idée très classique qu'on trouve dans les néant de Sartre, qui montre bien, si vous voulez, que le sens de l'en-soi dépend de la projection du pour-soi vers lui-même. Je prends l'exemple classique que Sartre donne dans la dernière partie de l'être ayant qui s'appelle « Avoir fait et être », où il dit « Une même montagne pourrait être considérée comme un élément esthétique, un obstacle ou une fin, en fonction de la manière dont je me projette vers l'être que je vais être dans mon avenir. » Si vous voulez, là, le sens même, en quelque sorte, de l'étang, dépend, en quelque sorte, de la manière dont je me projette vers lui. Voilà cette idée fondamentale que la transcendance est en même temps transcendance au monde et ce par quoi il y a effectivement monde. Voilà donc le sens de la troisième thèse. Et la quatrième thèse, précisément, nous dit la chose suivante. Mais au fond, il suit de ces trois thèses, précisément, que si on les accepte, en quelque sorte, l'action devra toujours, et je mets au défi quiconque de trouver
une phénoménologie de l'action qui, acceptant ces trois premières thèses, aura une définition différente de la définition que va donner cette quatrième thèse. Toute conception de l'action acceptant les trois premières thèses devra faire de l'action, je cite, mais ça c'est la même définition qui est donnée par tous les phénoménologues qui ont voulu s'atteler à la description de l'action, la réalisation intentionnelle d'un projet conscient. Ça c'est la manière dont Sartre définit l'action exactement en page 477 de l'être indulgent, mais c'est aussi exactement la manière dont Ricoeur va définir l'action dans son premier livre qui s'appelle à la page 62, donc dans Philosophie de la volonté, dans le chapitre qui s'appelle Description pure de l'agir et du pouvoir. Autrement dit, vous acceptez les trois premières thèses, vous devez nécessairement avoir la quatrième, à savoir que l'action est la réalisation intentionnelle d'un projet conscient. Or, une telle définition de l'action suppose elle-même trois traits caractéristiques qu'on retrouvera dans toutes les phénoménologies d'action. La première thèse caractéristique que contient l'idée que l'action est la réalisation intentionnelle d'un projet conscient, c'est l'analyse de l'agir en deux moments disjoints et qui se succèdent, si j'ose dire, par pure juxtaposition, sans entrelacs ou sans chevauchement, à savoir d'un côté la projection, qui donne au monde son sens, et de l'autre la réalisation, qui fait exister ce sens dans le monde. Voilà la première chose. La deuxième trait caractéristique de cette conception d'action, c'est le caractère de principe de l'action qui est donné au projet. Donc le projet est toujours le principe de l'agir, le possible ou le projet, ici je prendrais les deux choses de manière équivalente. Principe au sens typiquement grec du terme, au sens conceptuellement rigoureux du terme, à savoir que le principe est à la fois ce qui initie l'action et en même temps ce qui le guide, ce qui la guide. Pardon. Ainsi, c'est donc bien le projet qui va se trouver pensé comme le garant du sens de l'action, sens qui est en quelque sorte qui précède l'action et qui est posé une fois pour toutes par la conscience qui cherche à agir dans le monde. Donc voilà cette deuxième idée, le projet ou le possible comme principe de l'agir. Et troisième chose qui en découle, c'est le caractère purement prédicué de la réalisation elle-même qui se borne à l'être une simple exécution d'un sens qui lui préexiste. Si vous voulez, tout ce que pourra faire la réalisation, tout ce que pourra faire, si j'ose dire, le cœur de l'agir lui-même, ce sera donner de la réalité à un sens qui lui préexiste. Et là-dessus, personne ne s'est plus clairement exprimé que ça dans l'être et le néant, page 216 de l'être et le néant, où il a une thèse absolument décisive sur l'agir qui n'a, à mon sens, jamais été relevée. Lorsque Sartre dit, il dit, je cite, il dit exactement la chose suivante, il dit « Réaliser un projet, c'est lui donner de l'être. » Fin de citation. Réaliser un projet, c'est lui donner de l'être. Autrement dit, tout ce que fait le faire constitutif, si j'ose dire, du cœur de l'agir, ça va être de donner de la réalité à un sens qui préexiste à cette action. Ainsi, si j'ose dire, le sens est en quelque sorte fixé en amont de l'agir et du monde. Et c'est comme ça que je résumerai la chose, la réalisation se borne toujours à extérioriser cette signification par une extériorisation qui reste elle-même extérieure au sens qu'elle extériorise. Autrement dit, le seul sens de l'action va être de donner au sens un être, c'est-à-dire une réalité ou une existence. Et c'est la raison pour laquelle je ne m'attendrai pas là-dessus. Simplement, toutes les phénoménologies de l'action qui ont été tentées, notamment par Sartre et Ricoeur, par Merleau-Ponty, dans certains passages de la phénoménologie de la perception, sont toutes extrêmement pauvres, parce qu'en réalité, tout se passe comme si dans l'acte effectif, il n'y avait rien à voir, puisque toute la charge du sens était en quelque sorte, si vous voulez, portée par le projet. Et c'est pourquoi je vous mets au défi de trouver une phénoménologie d'action réalisée par un phénoménologue d'histoire, par un phénoménologue de la phénoménologie classique, qui ne tourne pas par une pente insensible en phénoménologie de la volonté, c'est-à-dire en phénoménologie du projet et de l'établissement du projet. Si vous voulez, voilà un petit peu le problème, et voilà ce à quoi conduit toujours la conception de l'action qui est portée ou qui est assise sur le fond de l'extranéité de la paresse par rapport à la paresse. Je pourrais le dire encore autrement. On pourrait dire, si vous voulez, que tout se passe comme si l'action entendue phénoménologiquement depuis la thèse de la transcendance de l'apparaître, comme réalisation intentionnelle d'un projet conscient, supposait toujours quelque chose comme une division transcendantale du travail. C'est-à-dire, non pas, alors là, ici, je ne dis pas division du travail, je dis division transcendantale du travail, c'est-à-dire, non pas une division étanche entre les fonctions de conception et d'exécution, en tant que, si vous voulez, on y affecterait empiriquement différents individus, mais en tant que cette division étanche, donc des fonctions de conception et d'exécution, serait la condition de possibilité a priori de tout agir individuel. Agir, c'est, si j'ose dire, avoir un ingénieur transcendantal en soi et un ouvrier transcendantal en soi, de sorte qu'on conçoive d'abord l'intégralité du projet de l'action sous la forme d'un sens défini une fois pour toutes, et qu'ensuite, on se bande simplement à donner de l'être à ce sens sous la forme, si j'ose dire, d'une action ouvrière qui suit la consigne qui est lui donnée de devant. Et on voit en quelque sorte, si j'ose dire, le lien qu'il y a entre cette thèse fondamentale thématisant l'action comme réalisation intentionnelle d'un projet conscient et, si j'ose dire, la distinction radicale entre la paresse et la paresse. Puisque comment pourrait-on avoir, si j'ose dire, un sens qui n'est pas fixé a priori et toujours déjà par le projet, comment est-ce que ça serait possible? Puisque la conscience est toujours posée en tant que la thèse de la transcendance de la paresse et de la vie comme origine du monde. C'est à partir du projet qu'il y a monde, et il faut donc précisément que le projet fixe le sens, et que l'action se bande toujours uniquement à la réaliser, à lui donner de l'aide. Donc voilà pour la première partie, voilà ce que je voulais rétablir en quelque sorte. Si on suit la première thèse coextensive de ce que j'ai appelé le dilemme de la phénoménologie, si on suit l'idée qu'il y a une distinction radicale de la conscience et de la totalité de l'apparaissant, il y a une distinction radicale de nature, un abîme de sens entre l'apparaître et l'apparaissant, vous aboutissez toujours à l'idée que l'action est réalisation intentionnelle d'un projet conscient. Et donc vous aboutissez toujours à cette forme de division transcendantale du travail par laquelle tout le sens est porté par le projet et où l'action consiste simplement, thématisé comme réalisation, à donner de l'être à un sens qui en quelque sorte est déjà établi. Et donc l'action se bornera toujours à une extériorisation d'un sens qui reste extérieur au sens qui est extérieur. Voilà l'idée. Donc si je veux dire, l'action n'a pas d'autre sens que donner au sens un être. Tout le travail qui reste maintenant à faire, dans la deuxième partie et dernière partie de ce que je vous propose, va consister à voir comment Batochka va transformer précisément cette phénoménologie de l'agir dont je viens de vous restituer vraiment à la bouche, disons, les grands traits, mais les grands traits qui sont en mon sens nécessaires. Je me mets au défi de trouver une phénoménologie de l'action qui ne emboîte pas le pas à ce que je viens de vous dire. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va voir comment est-ce que Batochka va transformer ou rectifier, si j'ose dire, cette conception de l'action et comment précisément à partir de ça, à partir de cette transformation, Batochka permettre de résoudre le problème du dilemme essentiel à la phénoménologie qu'on a vu juste que j'ai commencé par vous présenter. Alors, on comprendra d'abord toute l'originalité de Batochka, toute son originalité, à condition de saisir, du point de vue de la théorie de l'action qu'il propose, à quel point il bouleverse l'analytique existentielle avec Nicurie. En effet, là aussi je l'évite parce que c'est pas ce qui m'intéresse, c'est pas le rapport de Batochka à Heidegger qui m'intéresse, et c'est la manière dont, transformant Heidegger, il va proposer une véritable phénoménologie de la structure et de la pratique. D'un côté, on sait, et ça c'est assez classique, Bruno Barbara ça a bien montré, Batochka est d'accord avec l'idée heideggerienne d'après laquelle la possibilité serait une catégorie ontologique fondamentale, puisque Batochka écrira, il écrit très souvent, de manière heideggerienne, l'existence humaine est toujours, je cite Batochka, une vie dans des possibilités, de sorte que tout mouvement, toute action ne peut se réaliser que sur fond, et là je cite Batochka dans le papier phénoménologique, page 19, que sur fond d'un subjectif pur, intentionnellement anticipé et projeté au préalable. Il y a bien cette idée, à la fois très heideggerienne et très classique, au fond, qu'il n'y a pas de mouvement possible sans un projet ou une possibilité qui, précisément, en est le principe. Donc, voilà cette première idée. Je m'excuse, c'est bon. Voilà la première idée. Et pourtant, et c'est ça qui m'intéresse, il faut mettre en regard cette première thèse, qu'il n'y a donc de mouvement que sur fond d'un subjectif pur intentionnellement anticipé et projeté au préalable. Il faut mettre ça en vis-à-vis avec une autre thèse qu'on trouve également dans les papiers épidémiologiques, page 122, Patochka dit la chose suivante. Il dit, je cite, contre Heidegger, deux points. Il n'y a aucune projection primaire des possibilités. Le monde n'est pas un produit de la liberté, mais simplement ce qui rend possible une liberté finie. Fin de citation. Et alors là, si on met en regard la première thèse, qui est « Il n'y a de mouvement que sur fond d'un subjectif pur, intentionnellement anticipé et projeté au préalable », autrement dit que sur fond d'un possible ou d'un projet qui sert de principe, comme on l'a dit, au mouvement ou à l'agissement. Et d'un autre côté, qu'il n'y a aucune projection primaire des possibilités et que le monde n'est pas un produit de la liberté, il va donc falloir comprendre, précisément, comment est-il possible que l'existence subjective soit une existence dans des possibilités alors qu'il n'y a aucune projection de possibilités. Et là, il y a une friction fondamentale qu'on va pouvoir lever, et c'est ça ce qui va nous faire rentrer dans moi ce que j'appelle la pratique, à partir d'un fragment totalement cryptique que Patochka a écrit dans les papiers phénoménologiques, page 42. Patochka écrit ceci, et ça c'est la clé absolue, si j'ose dire, de la conception de la pratique que je propose, et au fond c'est ce qui règle tout le problème. Patochka dit la chose suivante, enfin, c'est un petit peu bizarre, mais je vais vous montrer comment je le comprends. Il dit, je cite, « Ce qui conditionne, entre parenthèses, la possibilité, ne peut être qu'un processus. Point. La condition du processus n'échappe donc pas à la détermination de processus. » Fin de citation. Chose très bizarre, mais voilà comment je traduirais cet énoncé patochkien qui semble au premier abord un peu étrange. Je dirais au fond que la condition du processus n'échappe pas à sa détermination, c'est exactement ce que dit Patochka ici en fait, signifie exactement que la possibilité qui donne son sens et sous-tend le processus, c'est-à-dire l'agir ou le mouvement, procède de ce mouvement lui-même. Il y aurait donc à la fois une préséance du possible sur sa réalisation et une surrection du possible depuis cette réalisation. Alors ça peut paraître un peu bizarre, mais en réalité, je pense que ça va s'éclairer. Et quand on a compris ça, on a compris véritablement ce qu'il faut appeler pratique chez Patochka. Cette idée ne peut signifier que la chose suivante. Cela signifie que la réalisation, le cœur même de l'effectivité de l'action, ne se borne pas à faire être impossible, comme le disait ça, mais au contraire, que la réalisation exerce ce que j'appellerais moi une rétroaction sur la possibilité qu'elle réalisait, de sorte que cette réalisation se retourne sur le possible qu'elle réalise pour l'enrichir et le féconder. Ainsi, le possible s'affouille par le mouvement qui le guide, et si j'ose dire, la rétroaction de l'activité sur sa possibilité est le constant approfondissement de cette possibilité. Alors, ça, ça parle encore un peu abstrait, je vais détailler, je vais concrétiser, mais voilà le schéma fondamental. Et c'est au fond ce dispositif qui permet de comprendre comment Patochka peut maintenir à la fois qu'il y a une vie dans les possibilités en refusant leur projection. Je m'explique. D'un côté, le sujet ne projette pas librement ses possibilités, puisqu'elles sont comme décrochées de mouvement, puisque la condition du processus est une détermination du processus. Mais d'un autre côté, ça n'est toujours en même temps que depuis ce que je sais faire, que depuis mes possibilités, que vont se lever de nouveaux possibles. Ainsi, tout mouvement que je fais, eh bien, précédé d'une possibilité qui l'anticipe, eh bien, qu'en même temps se dévoilent à moi des possibilités nouvelles par le truchement de leur réalisation. Donc, si vous voulez, c'était très étrange que quand j'agis toujours sur fond d'un pouvoir ou sur fond d'une possibilité, mais que la réalisation de ce pouvoir ou cette possibilité va aller plus loin et va en quelque sorte enrichir, va amener le possible au-delà de lui-même pour nous rendre davantage capables, pour livrer davantage de possibilités. Et je résumerai cette relation paradoxale du possible du mouvement ou du projet et de la réalisation en disant qu'il faut exactement conclure ceci. Il faut conclure que toute actualisation d'une possibilité porte en elle l'actualité d'une possibilisation ou y contribue. Autrement dit, actualiser une possibilité, c'est en même temps, si j'ose dire, subir l'actualité d'une nouvelle possibilisation, c'est voir le possible s'enrichir. Ce qui revient également à souligner que les conditions de possibilité du mouvement sont en même temps ses résultats. Vous voyez, c'est le possible qui rend possible le mouvement, en tant que le mouvement le réalise, mais en même temps, c'est le mouvement qui décroche davantage de possibilités, mais va rendre possible sa propre relance par la suite. Et c'est exactement comme ça que je comprends la déclaration de Patochkin suivante. Je cite Patochka dans « Qu'est-ce que la phénoménologie ?» page 216. Donc Patochka dit, je cite, « La transcendance du Dasein n'est pas un projet. » C'est clair. « Elle est à la fois une extase et un recueillement, aussi essentiel l'un que l'autre. » Dire que la transcendance du Dasein est à la fois une extase et un recueillement, c'est exactement dire que l'effort de transcendance se voit en quelque sorte couronné par l'événement de la réception, si j'ose dire de plus de transcendance, de plus d'extase, c'est-à-dire de plus de possibilités. C'est donc dans l'extase et par elle que se découvrent les possibilités extatiques qui vont le permettre de se relever. Et si vous n'êtes pas encore convaincu par ce que j'essaie de vous dire, il faut que je vous cite la page 71 des papiers phénoménologiques où là, Patochka dit quelque chose d'extraordinaire. Et là, c'est là où il pointe véritablement l'essence même de cette espèce de processus paradoxal par lequel la réalisation, si j'ose dire, est condition de possibilité, c'est la condition de possibilité, au sens où le possible vient de la réalisation qui la réalise pourtant. C'est ce que Patochka va appeler le miracle du faire. Je cite page 71, je cite Patochka, il dit « le « je fais », entre guillemets, donc le fait de faire, hein, le « je fais » présuppose toujours un « je » et se déploie sur sa base. Bon, jusque-là, rien d'extraordinaire. Pour faire, il faut pouvoir faire. Dire, c'est en ce sens où dire « je fais ce que je peux » n'est pas une excuse, mais si je veux dire une tautologie ou une proposition analytique. Très bien. Mais Patochka dit la chose suivante, il dit ensuite « je fais toujours ce que je peux », jusque-là, inattaquable, et, c'est là où tout se joue, le miracle du faire tient à ce qui excède ce « je peux » originaire. Fin de citation. Alors là, cette thèse du miracle du faire est totalement décisive, puisqu'elle suppose bien d'un côté que tout agir, toute action s'installe et prenne place sur fond d'un pouvoir, donc une possibilité, et pourtant, deuxième élément, ça suppose qu'au sein du faire, circonscrit par le possible qui le définit, se produit pourtant un miracle, le faire va au-delà du pouvoir, autrement dit, le conditionner, hein, l'agir, par son propre déploiement, dépasse sa condition et la transforme, de sorte que le conditionné devienne la condition de sa condition. Autrement dit, le mouvement ou la réalisation, l'agir, devient la condition du possible qui le rendait pourtant possible. Alors, vous me direz, tout ça c'est bien gentil, mais c'est extrêmement abstrait. Je vous répondrai que pas du tout. Parce que un tel miracle du faire, nous en avons en permanence l'expérience. Et c'est la thèse que je soutiens. Et c'est précisément ce qui rend possible et ce qui rend même pertinent ce qu'on appelle tout bêtement l'exercice. Qu'est-ce en effet s'exercer si ce n'est lutter au sein de notre propre pouvoir, de nos propres possibilités, dans les limites au fond que ce pouvoir ou ces possibilités impartissent, afin précisément, sans autre moyen que ce pouvoir dont nous sommes les dépositaires, parvenir à son propre dépassement. Nous avons tous fait l'expérience, pour peu que vous fassiez de la danse, n'importe quel sport, que vous jouiez n'importe quel instrument de musique, etc. Nous avons tous fait l'expérience de ce blocage où, en quelque sorte, englués dans nos possibilités trop restreintes, nous n'arrivons pas à progresser, précisément, et où tout d'un coup, si j'ose dire, un beau jour et sans crier gare, le miracle du faire a lieu, et où, à force de répéter et de refaire le même mouvement, ou les mêmes exercices, précisément ces mouvements emmènent le possible au-delà de lui-même, et en quelque sorte, l'exercice rend par la même possible ce qui n'était pas possible de faire jusqu'alors. Autrement dit, s'exercer, c'est au sein de notre pouvoir, sans rien pouvoir faire de plus que nous pouvons faire, parvenir pourtant à en faire davantage et à débloquer davantage de possibilités. Alors si vous voulez, on remarque, et c'est ça qui est assez intéressant ici, que cette nouvelle relation que j'appellerais au fond une relation circulaire du possible et du mouvement, par lequel au fond est thématisé ce que je nommerais en quelque sorte une auto-position du mouvement, puisque c'est le mouvement qui engendre cette propre condition de possibilité, c'est le mouvement qui nous rend capable d'agir, donc c'est le mouvement qui nous rend capable de faire plus de mouvement, et bien que cette auto-position du mouvement n'est rien d'autre que le détail de la structure eidétique de ce que nous avons nommé pratique au début de l'exposé, ce que je vous ai un peu décrit en faisant référence à notre grammaire musculaire. Puisque, d'une part, nous retrouvons ici, enveloppé dans cette thèse de l'autoposition du mouvement, l'impuissance de la représentation à rendre puissant, puisque c'est mon frère qui me rend puissant, qui me rend capable, hein, et que c'est en lui que se donne mon propre possible. Cela signifie que je ne peux rien sur mon propre pouvoir et que mon pouvoir vient, si j'ose dire, au cours de son exercice. Et nous retrouvons également l'immanence qui est une pratique, puisque, si j'ose dire, le possible ne se décroche que dans l'agir, que dans le mouvement. Ce qui signifie, encore une fois, que ça n'est que dans le mouvement que nous pouvons comprendre ou que nous pouvons, si j'ose dire, vouloir, et que le comprendre et le vouloir sont des moments de l'agir et des moments du mouvement, bien plus que l'agir ou la réalisation soit des moments du comprendre ou du vouloir. Donc à nouveau, pour savoir ce que cela fait que de faire ce que l'on fait, le seul moyen est de le faire. Et il n'y a pas, si j'ose dire, disons que l'essentiel du contenu même de l'action se trouve dans l'immanence du mouvement qui le délivre. Donc, si vous voulez, si agir, c'est encore réaliser une possibilité, c'est parce qu'originairement, c'est la possibilité elle-même qui est une réalisation de la réalisation. Alors, je vous donne immédiatement un exemple concret de cette autoposition du mouvement qui est constitutive de la structure eidétique de l'immanence qui caractérise une pratique. C'est un exemple que je tiens de Richard Sennett dans un livre très bien fait qui s'appelle « Ce que c'est la main, la culture de l'artisanat ». Richard Sennett donne ici l'exemple des cales romains, vous savez, ces espèces de durillons que développe l'ébéniste ou le menuisier au cours de son long et patient travail du bois. Alors, on pourrait croire spontanément que cette peau morte qui constitue ces cales romains serait au fond un simple effet du frottement de la peau sur le bois et qu'il s'agirait là d'une forme d'usure, au fond, qui nuirait au travail lui-même, parce que, bon, simplement, comme tout instrument, nos mains s'usent à force de travailler leur matière. Mais en réalité, ce qu'on découvre, et ce que montre très bien Sennett, c'est qu'il n'en est absolument rien. Ces cales aux mains rendent, au contraire, le travail de l'ébéniste ou du menuisier plus précis et plus riche, et ceci à la manière d'un zoom tactile, en réalité, en centrant le tact sur certaines zones de la main, pour les rendre en concentrant leurs capacités tactiles plus à même de déterminer les qualités du bois. Et vous voyez, là, il y a dans cet exemple, au fond, l'idée que c'est le travail du bois lui-même qui va ouvrir ce travail même à sa propre profondeur et qui fait émerger les nouvelles possibilités de travail elles-mêmes. Autrement dit, ça n'est que par le mouvement qui m'unit à la matière que je travaille, que les possibilités de ce travail même, c'est-à-dire déterminer les différentes qualités, les différentes nodosités du bois, vont pouvoir se déterminer et apparaître. Alors, il va de soi qu'une telle compréhension de la structure de la pratique va nécessiter, et ce sera le dernier trait que je donnerai de la structure éthique de la pratique, et ensuite je passerai à la conclusion et j'en aurai fini, mais il me reste à peu près un quart d'heure, donc ça devrait aller. Il va de soi qu'une telle compréhension de la structure de la pratique va nécessiter aussi une complète réflexion de ce que nous entendons par possibilité. Et c'est ce que fait Patochka de manière extrêmement conséquente, sans jamais dire qu'il est en train de faire ça, mais c'est ce qu'il fait, puisque page 73 des papiers phénoménologiques, Patochka va distinguer les intentions motrices des intentions de quasi-mouvement. Et les intentions motrices, ce seront, et là je pense que vous voyez venir, les intentions motrices, ce seront les possibilités effectives, assurant, si j'ose dire, une véritable compréhension, et ceci parce qu'elles viennent du mouvement elles-mêmes. Autrement dit, les possibilités réelles, les possibilités qui nous permettent vraiment d'agir sur le monde et qui sont véritablement en prise sur elles, sont précisément celles qui viennent du mouvement lui-même. Comme le dit Patochka, ces intentions motrices sont, je cite Patochka, des possibilités qui ne sont pas simplement possibles, hein, au sens où elles seraient simplement, comme les intentions de quasi-mouvement, des possibilités qui seraient juste concevables, c'est-à-dire qui ne seraient pas contradictoires. Bien au contraire, les intentions motrices n'ont rien à voir avec de simples possibilités. Elles sont des possibilités qui sont en prise directe sur l'être en tant qu'elles permettent d'agir sur lui. En ce sens, il faudrait dire que les intentions de quasi-mouvement, en tant que pur fruit de la représentation, en tant que mouvement saisi du dehors, en tant que possibilité de celui qui n'a pas conquis ses possibilités dans le mouvement et dans le travail du mouvement lui-même, serait ce qu'on pourrait appeler des irréels irréels. Alors que les intentions motrices, en tant qu'elles se développent dans l'immanence de l'autoposition du mouvement pratique, seraient des irréels réels, précisément. Au sens où les intentions motrices, ces possibilités qui ne sont pas simplement possibles, ont une véritable prise sur elles, car elles sont en quelque sorte imposées par le mouvement et par l'être, au lieu que ce soit nous qui lui imposions. Et c'est le sens du fragment, dernier fragment de Patochka que je citerai, qui peut paraître énigmatique, mais qui en réalité prend son sens dans ce cadre-là, puisque Patochka dit au fond, et c'est dans les papiers phénoménologiques, page 118, il dit la chose suivante, il dit « Les possibilités ne deviennent miennes qu'en se m'appropriant, au même titre que je me les approprie, dans la réalisation. » Fin de citation. Alors là, il y a même une agrammaticalité assez étrange, mais qui, à mon avis, était très très bien traduite par Eric Abrams. « Les possibilités ne deviennent miennes qu'en se m'appropriant, au même titre que je me les approprie. » Tout ça, dans la réalisation, ça signifie la chose suivante. Ça signifie que il n'y a que la réalisation, il n'y a que le mouvement lui-même qui engendre des possibilités effectives, des intentions motrices, c'est-à-dire emprises sur l'être capable de véritablement se réaliser et véritablement agir. Et ceci parce qu'il est toujours nécessaire que je me fasse à ce qui me permet de faire, précisément. Comme je n'ai absolument pas de pouvoir sur mon pouvoir, comme mes représentations ou mes décisions sont sans pouvoir sur mon pouvoir, je ne peux recevoir l'accroissement de mon pouvoir que comme ma propre altération, au gré du mouvement ou dans le travail que j'ai fait. J'ose dire. Et donc, je conclurai comme ça, et je répondrai en quelque sorte, là je vais essayer de montrer dans un dernier grand point, en quoi la structure que je viens d'essayer de décrire, alors j'ai été probablement un petit peu rapide, mais la structure, ce que j'appelle la structure idéologique de la pratique que j'ai essayé de décrire, va nous permettre de résoudre ce dilemme entre transcendance de l'apparaître et immanence de l'apparaître. Alors, en quoi est-ce que ce que je viens de décrire va nous permettre de résoudre le problème, si j'ose dire, que j'ai évoqué au début de cette intervention? Bien, parce que, d'une part, en effet, il est évident que le sujet pratique tel qu'il a été déterminé, comme je viens de le faire, vit bien dans des possibilités. Et donc, que son rapport à soi demeure toujours extatique, et donc non réifié, mais bien, il est vrai que le sujet agissant, le sujet se mouvant dans l'automouvement de la pratique, n'est pas réifié, n'est pas une chose. De sorte qu'ici, on conserve, en quelque sorte, cette distinction de l'apparaître et de l'apparition. Mais, d'autre part, la pratique permet, si on la conçoit jusqu'au bout, en quelque sorte, de concevoir l'identité de la vérification de l'apparaître et de son appartenance au monde. Autrement dit, la pratique permet de distinguer la déréification de l'apparaître et la démondanisation de l'apparaître. Pourquoi ? Voici la réponse. Et je répondrai, au fond, par une dernière question ici. C'est, au fond, dans la structure que j'ai décrite, qu'est-ce qui fait, en quelque sorte, la réalité de ces intentions motrices qui ont été conquises dans le mouvement, ces possibilités qui sont, si je veux dire, chargées et prêtes à faire feu, les possibilités de ceux qui, ayant fait le mouvement et les ayant conquises dans le mouvement, savent ce que cela fait en propre d'agir. Et bien précisément, ce qui fait la réalité de ces possibilités, de ce qui est conquis dans le mouvement, en réalité, c'est que, précisément, elles nous viennent. Nous sommes passif à leur égard, au sens où on les reçoit, au sens où je reçois mon propre possible comme ce surcroît de puissance que j'acquiers dans le mouvement. Mais toute la question qu'il faut poser, c'est d'où viennent-elles si je les reçois, ces possibilités, en quelque sorte. Et là, il n'y a qu'une réponse possible. Le possible que notre mouvement nous lègue n'est réel, n'est en prise directe sur l'être, ne mord véritablement sur l'être, que parce que, au fond, et c'est ça la réponse, que parce qu'il en vient, en réalité. L'intention motrice n'a une prise réelle sur l'être que parce qu'il vient lui-même de l'être. Alors ça, c'est une thèse un peu étrange. Je vais essayer de la défendre, en réalité. Je dirais la chose suivante, simplement. C'est à la faveur de ce long travail ontologique de notre mouvement commun avec l'étang que la profondeur propre de l'étang qui constitue pour nous son monde va passer en nous, si j'ose dire, et nous permettre d'agir sur lui. Autrement dit, c'est toujours le monde qui me donne de quoi agir sur lui. Et c'est parce que la possibilité d'agir est léguée par la matière sur laquelle nous agissons que cet agir peut effectivement agir sur lui ou sur cette matière. Et donc, on voit ici qu'on retrouve la thèse essentielle que seul le semblable peut avoir un rapport au semblable, que seul le semblable peut agir sur le semblable. C'est parce que le monde nous donne la puissance d'agir sur lui que cette puissance va bien pouvoir agir sur le monde sur lequel il agit. Et donc, nous voyons bien ici que c'est l'univocité de l'être qui est la condition de son équivocité. L'apparaître se distingue bien de l'apparaissant. Mais c'est l'apparaissant qui fournit à l'apparaître le matériel nécessaire à son apparition. Le possible par lequel la conscience transcende le monde n'est rien d'autre que celui du monde. Et là, il y a en fond un résultat qui peut paraître un peu déconcertant ou un peu abstrait, j'espère que ça ne l'est pas trop. Mais il y a quelque chose qui me semble absolument essentiel, c'est l'idée que l'action ne peut agir sur le monde que parce que le monde donne à celui qui agit les moyens d'agir sur lui. Et je le reformulerai dans les termes de Michel Henry, dans juste un couple conceptuel que Michel Henry utilise dans l'essence de la manifestation. Je dirais au fond que l'agir ne peut agir sur le monde que parce que le ce sur quoi de l'agir est aussi son ce à partir de quoi. Ce qui revient à dire précisément que seule la pratique peut agir, et ceci parce que, au fond, son immanence propre tient à ceci que sa possibilité d'agir vient de ce sur quoi elle agit. Et là, il y a quelque chose d'assez extraordinaire, alors que je ne peux que mentionner, et je vais m'arrêter de mettre, j'arrive au bout du temps qui m'est donné, mais je vous demanderais simplement, très très phénoménologiquement, de réfléchir juste à ceci. Il me semble qu'il y a quelque chose de tout à fait avéré phénoménologiquement, à dire que c'est parce que je reçois mon pouvoir de ce sur quoi il s'exerce que ce pouvoir va pouvoir s'exercer, c'est-à-dire être très finement ajusté à son objet. Autrement dit, la finesse de l'ajustement ou de l'ajointement du geste pratique qui sait y faire avec le monde ne peut venir que du fait que c'est le monde lui-même qui a donné à celui qui agit la capacité d'agir sur lui. Et je vous citerai juste un passage, le plus vite possible, mais pour donner un peu de poids à ce que je vais dire, je citerai un passage de l'Éthologie de la perception de Merleau-Ponty, page 175 de l'édition Gallimard, où il dit quelque chose de très proche, juste en passant, il ne s'attarde pas, et surtout il développe pas les présupposés ontologiques que j'ai essayé de développer aujourd'hui. Il dit la chose suivante, il dit « Dans le geste, la main qui se lève vers un objet est enfermée une référence à l'objet. Non pas comme un objet représenté, mais comme une chose prédéterminée vers laquelle nous nous projetons, vers laquelle nous sommes par anticipation, que nous entendons. » Fin de citation. Mais comment un geste peut-il porter en lui une référence déterminée et ajustée à l'objet qu'il rejoint et dont il manifeste les possibilités sans provenir précisément de cet objet? Vous voyez? C'est ça qui est extraordinaire. C'est comme si l'objet donné au geste qui va précisément par lui-même y être extrêmement ajusté, c'est la Ainsi, je formulerai les choses comme ça. Si ce que je dis est exact, et on voit en quoi ça se relie précisément à la pratique, à ce que j'ai nommé pratique, puisque précisément vous voyez bien que c'est dans mon mouvement commun avec les choses que me viennent les possibilités, et précisément c'est de l'étant lui-même, dans le mouvement par lequel je travaille avec lui, que passe en moi à la faveur de ce mouvement les possibilités qui me permettent d'agir sur lui. Si vous voulez, c'est précisément cette possibilisation pratique qui rend compte de ma capacité à agir dans et sur le monde. Mais ça signifie très précisément que tout aller vers le monde ne peut aller vers lui qu'à la condition d'être un retour, qu'à la condition que ce qui rend possible cette aller vers le monde provienne déjà de ce vers quoi il va. C'est ça qui est extraordinaire. Autrement dit, mon geste qui peut atteindre, si j'ose dire, une chose ou un objet et travailler avec elle, ne le peut que parce qu'elle tient la possibilité de le faire du mouvement commun qu'elle a eu avec cet objet. Ainsi, l'acte ne peut agir sur l'être qu'à la condition, si j'ose dire, que l'acte se précède lui-même dans l'être par lequel il agit. Et donc, si j'ose dire, pour l'être et l'acte, se rencontrer, c'est toujours se manquer. Agir, venir du dehors pour agir sur l'être, c'est absolument incapable de l'agir, d'agir sur lui. Et c'est ce qu'on appelle la maladresse, aussi simple que ça. Donc, si vous voulez, il faut en conclure que ce mouvement par lequel nous avançons dans le monde est identique à l'inscription du monde en nous. Et c'est la réciprocité de cette avancée dans le monde et de cette inscription du monde en nous que j'appelle exactement la pratique qui correspond à son immanence, précisément. Et c'est ce qu'établit très clairement Patochka dans ce dernier passage sur lequel je conclurai. Lorsqu'il dit, dans le monde naturel comme problème philosophique, page 226, lorsqu'il parle, je cite, d'un faire qui ne concerne pas uniquement les étangs dans leur réalité, mais dans lequel leur être doit être ouvert, dans et à travers lequel s'ouvre la richesse intérieure de l'étang, son contenu, son remplissement et son sens. Donc, si vous voulez, ici, qui est présente dans ce dernier fragment, c'est que agir, ça n'est pas rencontrer les étangs pour les modifier, mais c'est se situer d'emblée en eux pour cheminer en leur profondeur, et c'est ça que je nomme très exactement la pratique. Voilà, je vous remercie. J'espère ne pas, j'ai dû aller un petit peu vite, j'espère ne pas avoir été trop abstrait. Et je vous remercie pour votre attention.
Merci beaucoup, Charles André. C'était vraiment un exposé très clair et puis déjà très rigoureux aussi. Il y a une acuité très forte, très très importante dans ton exposé qui permet d'être justement qui est très clair et puis qui rend les choses stimulantes et même j'irais même jusqu'à dire ça rend très probant en fait d'aborder vraiment la question de l'appartenance à partir de cette problématique de la pratique et l'accroissement de nos possibilités dans la pratique. Et donc, on a eu la chance, en fait, d'avoir aussi en même temps l'arrivée de Ovidio pendant ton exposé. Donc, je vais lui laisser tout de suite la parole pour commencer la discussion. Puis ensuite, on verra s'il y a sans doute d'autres questions. Voilà. Ovidio, donc, je te laisse prendre le micro.
Ah, par contre, je t'entends pas, Ovidio, je suis désolé. Attends.
Voilà, mettons, j'espère que vous m'entendez tous, non ?
Oui.
Parfait. Bon, merci à tous. Merci à Aurélien pour l'organisation de ce séminaire. Merci à toi, Charles-André, pour cet exposé très riche, tellement riche que je ne sais pas exactement par où commencer, mais peut-être commencer par parce que je pense que tu as réussi à ramener plusieurs fils de la pensée patochkienne autour d'un problème très, très spécifique et d'avoir proposé aussi une manière d'unifier plusieurs interrogations. Et c'était un exposé très stimulant parce que d'une certaine façon, ça donne envie de rebattre les cartes, de organiser un peu la présentation habituelle de la pensée de Patochka. Bon, je ne veux pas être trop technique, mais bon, je vais devoir l'être même un tout petit peu. Et je vais d'abord vouloir te dire tout mon accord concernant ce qui me semble être la thèse centrale de l'exposé, à savoir qu'il y a une sorte de antériorité ontologique de ce que tu appelles la pratique, on pourrait peut-être l'appeler mouvement pour voir si c'est équivalent soit de soi, par rapport à l'acte et à la puissance en fait. Donc d'une certaine façon, tout le débat, disons entre Aristote et Heidegger, bon, Aristote défenseur de la priorité de l'acte sur la puissance, Heidegger défenseur de la priorité de la puissance sur l'acte, je trouve en un certain sens dépassé parce que les deux, l'acte et la puissance, apparaissent comme deux versants d'un mouvement qui est plus fondamental. Et donc, ici, je te suis complètement, et ça me semble être un acquis durable de la pensée de Patochka que tu as mis en évidence d'une manière excellente. Alors, si on va plus loin dans les détails, je pense que la première question qui pourra surgir est précisément la suivante. Pourquoi insister sur la dimension pratique? Pourquoi appeler cette dimension originaire pratique et non pas simplement mouvement? Et alors, je pense qu'on pourra, donner des arguments pour les deux options. Non. Si on penche sur le mouvement, enfin sur la pratique, on pourra dire, de cette façon, finalement, on arrive à rendre compte aussi des dynamiques qu'on pourra difficilement appeler pratiques. Il y a l'exemple très connu dans l'œuvre de Patochka, non, que Barbara associe si souvent, non, de la mûrissement d'une pomme. Quand une pomme est en train de mûrir, il ne s'agit pas vraiment d'une pratique, en fait. C'est-à-dire, ce serait un abus de grammaire d'appeler ça la pratique. Néanmoins, je pense que la description que l'on donne concernant la distribution de l'acte et de la puissance à partir d'une dynamique, à partir d'un mouvement, peuvent aussi nous aider à expliciter ce mouvement particulier. Finalement, il n'y a pas une sorte de possibilité qui flotterait dans l'air de la pomme de devenir comestible. D'une certaine façon, c'est le fait que sur un substrat déterminé se réunissent ces différentes qualités qui construisent ces possibilités et qui ensuite agissent de manière rétrospective. Donc, disons, ça, ce sera un argument pour le mouvement. Le mouvement serait d'une certaine façon plus intégrateur que la pratique. La pratique serait une espèce particulière de mouvement. En même temps, il s'agirait dans ce cas-là d'un type de mouvement qui est en un certain sens qui se déroule dans une fondamentale indifférence par rapport à lui-même. C'est pas la pomme, elle s'en fout de rester verte ou de mûrir. De sorte que qu'en pensant cette origine de manière-là, on ne parviendrait pas vraiment à penser ce qui fait la spécificité de nos propres mouvements, c'est-à-dire que nous ne sommes pas simplement projetés sur les possibles, mais que nous faisons ces possibles nôtres. Alors, la pomme, en un certain sens, jamais elle fait ses possibles siens. Non. Et du coup, là, en fait, on voit qu'il y a une sorte de... Là, on voit que la pratique ne peut pas être simplement subsumée sous la catégorie de mouvement, mais qu'elle a une originalité ontologique propre. Bon, donc on peut dire, ben, en fait, on peut distribuer un peu les cartes de cette manière-là. Et donc, je comprends pourquoi tu veux insister sur la dimension pratique de ces dimensions. Néanmoins, le tableau que je présente a une apparence véridique, on peut se demander si on ne reste pas avec une forme de dualisme qui ne concernerait pas maintenant le cadre que tu viens de présenter, mais qui concernerait précisément la distinction entre deux types de mouvements. Un type de mouvement où la possibilité est réalisée de manière indifférente, et un type de mouvement qui serait la pratique où la possibilité est véritablement assumée et intégrée. Donc, ça, ce serait, disons, une première question pratique-mouvement. J'aimerais bien t'entendre là-dessus. Mais alors, si on se concentre plus précisément sur le cadre que tu as développé, Et sur la question qui me semble tout à fait centrale, et je te remercie vraiment de l'avoir formulée dans ces termes, d'où vient les possibles? Si on essaie de dépasser le cadre heideggerien, non, si on essaie de dépasser l'idée d'une projection des possibles, la question devient incontournable. Il faut en rendre compte. Et là, je me demande en fait si ta réponse n'a pas, d'une certaine façon, court-circuité une difficulté présente dans la pensée de Babushka. Parce que tu as dit, d'une manière qui me semble tout à fait correcte avec la pensée de Patochka et en général avec la philosophie phénoménologique, les possibles viennent du monde. Ça me semble, c'est une thèse qui me semble indiscutable. Néanmoins, dans la suite de l'argument, si je t'ai bien compris, si ce n'est pas le cas, je te prie de me corriger, tu as utilisé cette thèse comme un moyen, comme un levier pour dépasser la dualité apparaissant apparaître, supposant de manière implicite que ce qu'on entend par monde, c'est l'apparaissant. Alors, effectivement, il y a des textes où Patochka précisément dit non, le monde, c'est le grand apparaissant. Et le monde, c'est du côté de l'apparaissant. Mais, il me semble qu'il y a aussi d'autres textes, et peut-être que si on pense Patochka en phénoménologue, c'est la thèse qui s'impose, c'est que le monde, c'est pas tellement l'apparaissant, pour la simple raison que le monde n'apparaît pas comme tel, il co-apparaît, mais plutôt le monde serait la structure même de l'apparaître. Et donc, on pourrait d'une manière, une autre manière d'entendre d'où viennent les possibilités, les possibilités viennent précisément de cette articulation préalable du champ de l'apparaître. Ce qui nous placerait dans une position où la dualité serait maintenue, mais ce serait une dualité complètement reformulée. C'est-à-dire, il ne s'agirait plus d'opposer la région conscience et la positivité, la chose, l'objectualité, non. Mais il s'agirait d'une différence phénoménologique qui oppose l'apparaître, c'est-à-dire le monde, dans sa légalité spécifique, et l'apparaissant, quelle que soit sa nature, c'est-à-dire qu'il s'agisse d'un étant objectif ou qu'il s'agisse d'un vécu intentionnel, en fait. Et du coup, il y a une certaine parenté avec ton geste qui consiste à dire qu'il y a une homologie, en fin de compte, entre ce que Husserl appelait... je le dis autrement. Il s'agirait finalement de dire, oui, la dualité husserlienne entre la région conscience et le monde, les temps objectifs, la totalité de l'intramondain est dépassée, c'est-à-dire on voit bien leur parenté fondamentale, mais leur parenté fondamentale, le fait qu'ils s'inscrivent dans le même plan, est compatible avec le maintien d'une dualité, et ça, c'est la dualité entre le monde comme structure de l'apparaître et l'apparaissant indifféremment subjectif ou objectif. Donc voilà, je me demande si c'est pas plutôt... ce dualisme phénoménologique doit être maintenu. Je pense qu'il y a après, si on prolonge en fait la discussion de la pratique au niveau de la philosophie de l'histoire, je me demande si ça ne devient pas nécessaire en fait pour rendre à la pensée de Patochka une certaine cohérence dans la mesure où non, disons, la naissance de la politique, la naissance de la philosophie, la naissance de l'histoire comme ethos, disons, présuppose quelque chose comme un dépassement vers le monde, donc présuppose comme la possibilité d'ouvrir une dimension qui n'est pas celle de l'apparaissant et qui serait celle de l'apparaître. Voilà les réflexions que ton très riche exposé m'inspire. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres dans le public, mais encore une fois, je réitère mes remarques.
Merci beaucoup pour ces très bonnes questions. Alors, voilà, je vais essayer de répondre dans l'ordre. Très bonne question. En fait, si je résume, en fait, pourquoi vraiment, c'est une question qu'on m'avait déjà posée un peu. Pourquoi est-ce que je tiens tellement à parler d'une pratique et pourquoi est-ce que je passe simplement une technologie de mouvement? Alors, c'est intéressant parce que, il y a aussi peut-être aussi une question de méthode qui s'interpose ici parce que moi, disons que Patochka est pour moi plus une ressource qu'une véritable source parce que disons que le problème que je me pose, le problème fondamental que je me pose, et là Patochka est extrêmement utile. Mais ça n'en est pas moins un problème qui peut-être est un petit peu oblique à Patochka, c'est le problème de la possibilité en fait d'une phénoménologie de l'action, c'est-à-dire de concevoir l'action, l'agir, le faire comme un phénomène, c'est-à-dire comme un apparaître donnant quelque chose à apparaître précisément. Et dans ce cadre, j'ai une bête noire du coup qui est le concept de réalisation, parce que le concept de réalisation c'est la manière facile de régler le problème, et c'est ce que j'ai dit dans ma présentation, tout le monde, de Ricoeur en passant par Merleau-Ponty jusqu'à Sartre, jusqu'à même Lévinas, etc., diront toujours que agir, c'est réaliser une possibilité. Mais le problème, et c'est ce que j'ai montré, c'est que la réalisation, c'est un faux concept phénoménologique parce que, comme on dit très bien Sartre, réaliser, c'est toujours donner de l'aide, et il n'y a rien à voir dans la réalisation. Et c'est là où ça, c'est un petit peu ce que je montre très longuement dans ma thèse, en prenant toutes les phénoménologies d'action et en montrant qu'elles ne voient rien, effectivement. C'est là où je réponds à ta question, du coup, pourquoi mouvement, pourquoi pas mouvement et pourquoi pratique? Parce que pour moi, mouvement, ça reste extrêmement proche de la réalisation. Le mouvement, c'est ce qui réalise une possibilité projetée en avance, et par là même, j'ai très peur de cette identification subjective entre le mouvement et la réalisation. Si bien que, la plupart du temps, quand Sartre ou Ricoeur ou d'autres phénoménologues parleront de l'action, ils utiliseront indifféremment réalisation et mouvement. Et en réalité, ça me semble extrêmement dommageable pour l'agir comme phénomène en lui-même. C'est pour ça que j'étais si content, justement, de sortir du mouvement. Alors, c'est paradoxal, parce que Patochka, c'est aussi le penseur du mouvement. Mais justement, par rapport même à la thèse de Dracoche-Bricou, par exemple, etc. Sa thèse sur le mouvement, en la lisant, je me suis précisément rendu compte que quand lui parlait de mouvement, moi je lisais pratique, parce que dans la pratique, il y a tout autre chose, en fait, que la simple réalisation de possibilités. C'est ça qui est vraiment tout à fait essentiel, et c'est ça qui pour moi est absolument fondamental, au sens où, moi je veux bien qu'on parle de mouvement, si par mouvement, on entend non pas quelque chose qui extériorise une signification, mais quelque chose qui a véritablement la signification de produire du possible. Moi, je veux bien qu'on appelle ça mouvement, mais il me semble que dans la vie de tous les jours, et là, c'est pour ça que je fais un peu plus appel au niveau phénoménologique et pas au niveau ontologique ou métaphysique, dans la vie de tous les jours, ce processus extraordinaire par lequel nos possibles nous adviennent par le mouvement qui cherche à les réaliser, c'est beaucoup plus de l'ordre de ce qu'on appelle pratiquer quelque chose, y compris même dans le sens usuel du terme, au sens de pratiquer un instrument musique. Je veux dire littéralement pratiquer un instrument musique, c'est ça. C'est commencer avec un pouvoir minimal, pouvoir qui va se structurer et s'amplifier à la mesure de son exercice. Et c'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Et c'est pour ça que je dramatise mon concept de pratique en l'appuyant phénoménologiquement sur notre vie immédiate dans laquelle cette circularité du mouvement et du possible se donne beaucoup plus comme pratique que comme mouvement. Parce que moi, si tu veux, là, quand on parle de mouvement, j'entends aussi un peu, je sais pas moi, par exemple, les kinesthèses et Husserl, ce mouvement qui consiste simplement à bouger les globes oculaires pour avoir une vision, etc., du monde. la vision des différentes esquisses. Et pour moi, là, ce mouvement-là est totalement insuffisant, parce que précisément, il n'a pas d'autre sens que de donner au sens un être, et donc il manque de sens véritablement. Donc c'est pour éviter le piège de la réalisation que je m'écarte du mouvement, et que à partir du moment où je veux faire de l'agir un véritable phénomène et un véritable apparaître, moi je parle plutôt de pratique. Mais on peut être d'accord si on enrichit énormément le concept de mouvement, mais je suis plus sûr que pour le commun des mortels et dans la grammaire usuelle, ce soit véritablement du mouvement qu'on parle. Donc ça me semble beaucoup plus parlant de parler de pratique pour cette raison-là. Donc voilà, disons qu'il peut y avoir un concept fort du mouvement qui serait identique à la pratique, mais je ne pense pas que ce concept fort du mouvement corresponde à la grammaire que nous avons du mouvement dans notre vie quotidienne. C'est pour ça que ça me semblait phénoménologiquement plus probant par rapport à la manière dont nous vivons les choses immédiatement de parler de pratique. Voilà, je ne sais pas si ça répond à ta question, c'est une manière que j'aurais essayé de le poser.
Ça répond et ça me convainc, mais du coup, je vois l'autre problème qui émerge, c'est-à-dire, est-ce que là, pour le coup, tu auras une autre position concernant les phénomènes qui s'apparentent au mouvement, mais qui ne sont pas de l'ordre de la pratique, c'est-à-dire mûrissement de pommes, phénomènes naturels, parce qu'en fait, je pense que là, pour le coup, on a deux possibilités. Soit on renonce à une position, disons, phénoménologie et cosmologique, et on dit, enfin, il n'y a rien de plus à décrire que ce que les sciences naturelles décrivent, et voilà, quoi. Enfin, c'est, il n'y a pas à chercher midi à 14 heures. Voilà. Soit, si on dit, mais en fait, la description aristotélicienne sont pertinentes pour parler de ça, bah, du coup, en fait, il faudra tracer une ligne beaucoup plus fine entre ce mouvement-là, disons, où il n'y a pas de jeu impliqué, où il n'y a pas vraiment de pouvoir d'un jeu-peu, mais qui est tout de même aussi une sorte de négociation entre l'art et la puissance, et les phénomènes qui sont vraiment de l'ordre de la pratique, ce que tu décris. Donc, moi, ça me, enfin, si tu veux, mon inquiétude ici, c'était plutôt une inquiétude d'ordre architectonique, en fait. À partir de ce concept, comment on redistribue les termes, dans la mesure où, là, je pense qu'on est d'accord, non, Patochka aspire non seulement à rendre compte des mouvements que nous effectuons en tant qu'étant subjectifs, mais aussi des mouvements qui traversent les autres étants, en fait.
Tout à fait, oui. Alors, tout à fait. Alors, c'est là où moi, étant donné que. Alors, disons que. Alors, pour être tout à fait honnête, et c'est vrai que ta question est vraiment très très bonne, pour être tout à fait honnête, dans le travail que je suis en train de faire en ce moment, c'est-à-dire dans la thèse sur la phénoménologie d'action que je suis en train d'écrire, j'ai tendance à identifier tous les mouvements qui ne ressortent pas de la pratique à l'attitude naturelle, au sens où ce serait l'écrasement de l'apparaître sur l'apparaître. Et c'est là où j'aurais tendance, moi, à être très radical et à non patochkin dans le travail que je suis en train d'essayer de faire. Alors ça, c'est peut-être un peu problématique. Mais il me semble que si on enlève ce que tu appelles très justement cette forme de négociation de l'acte et de la puissance, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la substance phénoménologique ou le donné phénoménal de l'agir lui-même, si bien qu'il n'y a plus grand-chose à voir, et si bien qu'on n'a plus affaire qu'à des apparaissants ou à des processus dehors, et non pas à quelque chose qui vient de l'intérieur. Donc je sais bien que ça peut paraître assez radical, et probablement un peu antipatochien, alors là, peut-être que je l'utilise de manière en fait, vraiment un peu jetant, mais c'est quelque chose qui, à cause de la critique que je fais de notre conception usuelle de l'agir comme réalisation d'un possible, c'est quelque chose que je tends à faire plutôt. Donc, quelque part, je dirais plutôt dans ta première alternative, même si je suis tout à fait d'accord qu'elle n'est pas patochienne, alors peut-être que ça me mènera dans le mur, peut-être que ça me permettra de faire autre chose, je suis tout à fait d'accord avec l'alternative. Et là, c'est là où c'est là où, personnellement, alors c'est peut-être un petit peu plus de dire ça à mon niveau, etc., mais moi, je suis beaucoup plus enraciné dans la phénoménologie que dans la cosmologie. Moi, le mouvement de la pomme, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Parce qu'il y a autre chose à voir et qu'on n'a pas vu jusqu'à présent dans la pratique et qu'il faut voir, et qu'il faut mettre plus attention. Donc voilà, mais tu as absolument raison, je suis d'accord avec toi. Voilà pour la première réponse. Je ne sais pas si ça va. Et pour la deuxième question sur le monde, etc. Je suis d'accord avec toi, là, il y a peut-être un peu un malentendu parce que j'ai dû finir vite, etc. Bien sûr que quand j'entends le monde au sens du grand apparaissant, c'est évidemment pas le monde au sens originaire, au sens originaire du terme. Hein. Évidemment, le monde, c'est ce qui co-apparaît, ce qui ne apparaît jamais comme tel, et évidemment, sur ce point-là, je reste effectivement assez patochien. J'irais même jusqu'à dire que le monde, c'est la profondeur même de l'étang, précisément, en tant que... Et c'est là, précisément, je pense que l'idée que c'est l'apparaissant qui cède à la subjectivité l'apparaître, qui lui permet d'apparaître donc, au sein du mouvement pratique que j'ai essayé de déterminer, ça, c'est tout à fait compatible avec une conception patochkienne du monde, au sens où, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la profondeur de l'étang qui, en quelque sorte, qui lui permet d'apparaître, bien qu'on n'ait jamais fini d'épuiser cette profondeur. Au sens où, vraiment, pour moi, là, ici, le monde n'est pas du tout l'apparaissant, et qu'il y a bien toujours une forme de dualité, en tout cas de différence, entre l'apparaître et l'apparaissant, ça c'est certain. Effectivement, le monde est bien l'apparaître de l'apparaissant. Seulement ici, ce qui se passe, c'est que l'apparaître advient, si j'ose dire, à partir de la profondeur de l'apparaissant, comme ce qui, moi, dans mon mouvement, me permet de le faire apparaître. Donc il y a effectivement ce phénomène de passage, où, parce que c'est vraiment ce qui se passe, au sens où, au fur et à mesure que j'agis avec dans une pratique, je me rends compte qu'elle est de plus en plus profonde, et par là, le monde se dévoile et j'avance dans le monde. Et c'est précisément aussi en ça que, en recueillant, si j'ose dire, en moi la profondeur du monde, en peu plus dans les choses, je fais apparaître toujours davantage la chose, bien que j'arrive jamais à épuiser ce monde qu'elle contient et l'apparaître qu'elle recèle. Voilà. Donc je suis tout à fait d'accord pour la deuxième question. Je pense qu'il n'y a pas de problème. Il faut juste aménager ça un peu en termes de pratique. Et je pense qu'il n'y a pas de problème. Je suis tout à fait d'accord avec toi que le monde chez Patochka, dans ce qu'il a de plus riche, n'est pas du tout de grand apparaissant. Donc là-dessus, aucun problème. Voilà, je sais pas si je suis clair, mais c'est vrai comme c'est dur à relobiser tout de suite. Voilà, c'est ce que j'aurais à dire. Mais disons que ta première question est vraiment assez terrible parce qu'elle me force aussi à être d'accord avec moi-même et à être radical sur ce point en disant que si, effectivement, il n'y a pas d'autre phénoménalité dans le mouvement que la phénoménalité pratique, ben, il faut exclure la phénoménalité de tous les mouvements qui ne sont pas des mouvements pratiques. Là, je pense que c'est quelque chose qu'il va falloir que je fasse à un moment donné. Voilà. Donc voilà. Mais merci beaucoup. Je sais pas si ça répond à tes questions. Voilà.
Non, ça répond parfaitement à mes questions et d'ailleurs je comprends très bien les raisons qui te poussent à prendre ce parti, mais je me demande en fait s'il n'y a pas moyen d'aménager les deux en fait, c'est-à-dire je pense qu'il n'y a aucune difficulté à donner au mouvement ce sens patochkien, et de dire mais en fait la pratique c'est plus que du mouvement en fait. Donc je pense qu'il n'y a pas nécessairement, il y a une tension mais qui n'est pas nécessairement vouée à devenir une contradiction. Et d'ailleurs, si tu te rappelles bien, le passage que tu as cité, tu disais bah, c'est la clé de l'énigme, papier phénoménologique 42, page 42, bah, c'est une discussion du concept aristotélicien de mouvement qui précisément consiste à ne pas supposer un substrat préalable. Or là, on voit bien que cette thèse, Aristote la formule contre une certaine. Patochka la formule contre une certaine compréhension de la physique, non, où il y aura des hypokéména et ainsi de suite, alors que l'idée c'est que l'hypokéména aussi elle est produite en fait par le substrat, elle est produite par le mouvement, dans le cas de la pomme et dans le cas de l'agir, avec la seule différence que c'est une autre manière de produire le substrat, c'est une toute autre ouverture au monde. Donc, bon, si tu veux, je comprends très bien pourquoi tu veux radicaliser la chose, Je pense qu'il y a aussi une manière de garder les deux, mais après, il s'agit d'options philosophiques qui sont un peu comme ça, fondamentales. Et bon, là, on peut trancher et moins argumenter, je pense.
Oui, bien sûr. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que tout le monde sera d'accord pour dire en même temps que la pratique façonne le corps du pratiquant. De la même manière, effectivement, que pour Patochka, avec cette inversion d'Aristote, disons, effectivement, le véritable substrat, c'est le mouvement, et la tribu du substrat, c'est la substance. Donc là, il y a évidemment une sorte d'homologie extraordinaire où tout le monde sait que le danseur a un corps qui provient de sa danse. Et c'est quelque chose d'assez, en quelque sorte, plus évident. Et en même temps, ça rentre très bien dans notre idée, parce que si le corps, c'est juste des possibilités, ben précisément, on voit très bien en quoi les possibilités viennent du mouvement, comme le corps vient du mouvement, et le corps vient d'une pratique, et la pratique fait un corps. Ça marche bien ensemble, si je veux dire. On voit tout à fait aussi cette homologie-là. Ben effectivement, on pourrait dire dans ce même temps, du coup, que exactement comme la danse fait le corps du danseur, ben la germination fait le corps de la plante. Vraiment, il va y avoir quelque chose. Effectivement, d'échantillonnage, en tout cas, on trouve le même processus à différents degrés d'être. Voilà.
Merci beaucoup. Merci pour cette discussion très, très, très riche là encore entre vous. C'était très intéressant d'entendre comment ça avance, comment on peut essayer de concilier des différents pans de la pensée de Patochka. Je voulais savoir si peut-être dans le public il y avait d'autres questions. Peut-être Alexis, si tu as peut-être une question ou quelqu'un d'autre.
Si tu as une question, reviens, vas-y. Hein.
J'ai plusieurs questions, mais comme il est déjà 19h43, je regarde un peu le temps. Mais oui, je vais quand même poser une question à Charles-André, en profiter. Je poserai les autres en privé, c'est pas grave. Alors, attends, je vais remettre ma caméra. Je voulais revenir un peu sur... ça m'intéressait un peu d'avoir ton avis précis sur la question du miracle pratique. En fait, il y a une sorte de théorie du miracle pratique chez Patochka, en fait, quand tu en parles. Je voulais savoir si pour toi, c'était, entre guillemets, le bon concept qui était utilisé là, dans la mesure où on comprend bien que dans la réalisation surgit une nouvelle possibilité, et accroît, en fait, le pouvoir du sujet. Mais est-ce que c'est le concept de miracle en renvoie, bon, déjà, pas à la régularité avec laquelle peut renvoyer la notion de pratique et d'exercice, comme tu en as parlé. Et puis, ça renvoie aussi un peu au surgissement, un surgissement ex nihilo, à partir de rien. Tu dis aussi sans tri égard, donc avec un caractère d'imprévisibilité et d'événementialité. Finalement, tu montres très bien aussi que dans la pratique, il y va d'un approfondissement, en fait. Et donc, il y a quelque chose comme un ajustement, une continuité avec le mouvement dans lequel on était déjà impliqué, investi. Sur ce plan-là, est-ce que tu trouves que ça marche bien conceptuellement? J'ajoute aussi, des fois tu parles d'affouillement des possibles, au fond. Je me demande, est-ce que ça aussi, ça comment tu l'entends? Parce que dans l'affouillement au sens, entre guillemets, scientifique, il s'agit d'une érosion, l'érosion d'un sol, alors que toi, au contraire, tu parles d'un accroissement, un accroissement des possibles. Alors, est-ce que ça fonctionne bien? Et dernière petite qui est correcte, tout ça, est-ce que tu trouves aussi finalement une forme d'antécédence ou d'antériorité un peu de la réflexion sur la pratique et l'exercice chez, par exemple, quelqu'un comme Ravesson, qui fait quelque chose qui parle vraiment de la mécanique de la répétition et de la grâce? Et là aussi, vous voyez, il y a un jeu de vocable avec le miracle, voilà. Mais c'est des petites questions un peu ponctuelles, mais ça m'intéressait un peu d'avoir...
Merci beaucoup, c'est des très très bonnes questions. C'est tout un problème, cette affaire de miracle. De toute façon, on voit bien, dès lors que je dis que d'une manière ou d'une autre, ces possibilités viennent du monde, elles viennent de quelque part, donc elles sont plus ex nihilo, donc il n'y a plus de miracle. C'est aussi simple que ça, de la même manière, ça concerne la chose, parce qu'il faudrait vraiment, pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'une chose apparaisse là où rien n'était avant. Or là, il y a un passage, il me semble que l'idée plutôt de l'infusion, c'est la bonne métaphore plutôt, c'est-à-dire qu'on infuse dans le monde, c'est par là que les possibles nous viennent, exactement d'ailleurs comme l'eau suce en quelque sorte du corps qui qui infuse en elle ses propres propriétés. Donc, c'est beaucoup plus de cet ordre-là. Donc, effectivement, d'un point de vue ontologique, je dirais que c'est bizarre. Néanmoins, là, il y a une pertinence, c'est d'un point de vue phénoménologique. C'est-à-dire, dans les bouquets, oui, il peut y avoir un miracle, au sens où il y a une forme de surgissement intérieur du vécu de celui qui fait ce qu'il fait, que lui ne pouvait absolument pas anticiper, en fait, et dont il ne pouvait avoir qu'une espèce de pressentiment, au sens simplement, et ça c'est le problème, au sens où bah, si on pratique, c'est bien qu'on a l'impression qu'on peut faire mieux, qu'on peut aller plus loin, sans pouvoir déterminer quel va être ce contenu du plus loin ou du mieux, parce que sinon on y serait déjà, et on serait déjà, il n'y aurait pas de problème. Donc il y a effectivement un caractère caduque, enfin pas du tout pertinent ou déficient du concept au niveau ontologique, où si effectivement je ne suis aussi bien adapté au monde dans la pratique que parce que ceux qui m'y adaptent viennent du monde et qu'il n'y a pas de miracle, au sens de l'expression carrément. En revanche, par contre, vraiment, je crois que phénoménologiquement, du point de vue de l'immanence en fait, de la pratique, il y a quelque chose comme ça et qui vient, pour essayer de le rendre un peu plus concret, qui vient de cette... Et ça, je pense que c'est un théorème qui est partagé à la fois par Michel Henry et par Patochka, à cause de cette impuissance radicale que nous avons à l'égard de notre propre puissance. Et ça, c'est vraiment quelque chose de... C'est quasiment un théorème idéntique. On ne peut rien sur sa propre puissance. Au sens où ça n'est ni ma décision, ni ma volonté, ni ma représentation qui va faire que je vais pouvoir plus que ce que je veux. Et d'ailleurs, c'est même une très bonne... C'est Michel Henry qui définit ce qu'il y a dans le troisième tome de Philosophie de la vie, il définit le règne comme cette espèce de tyrannie de la volonté de puissance sous la forme d'une volonté qui voudrait que son vouloir soit un pouvoir. Mais vouloir que son vouloir soit un pouvoir, c'est ce qu'on appelle l'enfance, en fait. C'est faire des caprices, c'est vouloir, en quelque sorte, être plus puissant sans ne rien avoir à faire pour être plus puissant. C'est pouvoir décider de sa propre puissance. Et si on me suit sur cette idée de notre impuissance à l'égard de notre propre puissance, bon ben là, nécessairement, l'accroissement de cette puissance ne peut être qu'un événement. Parce qu'on n'y peut rien, littéralement. On ne peut rien sur son propre pouvoir. Et c'est en ce sens-là qu'il y a une forme de pertinence phénoménologique, simplement, du concept de miracle. Voilà. En un certain sens. Je ne sais pas si c'est clair, mais en tout cas, et c'est même ce qu'on éprouve tous, c'est ces fameux moments. Moi, je sais qu'il y a des gens qui font du mal. On pratique le piano, pendant 3 ans on est bloqué, on n'avance pas. Et puis d'un seul coup, un jour on se lève le matin et quelque chose a changé. En fait. Et c'est vraiment de l'ordre de l'événement, quasiment de l'événementiel au sens du Romano. Quelque chose a changé, c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Une posture de main varie un peu, on est plus tendu et tout devient possible différemment et c'est un nouveau monde qui s'ouvre. Donc là il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là qui me fait penser qu'il y a une pertinence, donc non pas ni antique, ni ontologique, ni technologique, du concept de miracle. Voilà pour la première chose. Ensuite, pour le concept d'affouillement, enfin, c'est un beau concept. La notion, le terme d'affouillement, c'est quelque chose qui a chez Patochka. En tout cas, dans la traduction d'Eric Abrams, qui est assez extraordinaire, moi, évidemment, ça, je m'en dédouane un peu parce que je ne travaille pas sur Patochka, mais avec Patochka, donc je ne parle pas dessus. Je ne peux pas aller vérifier quel est le terme. Voilà, mais je m'en dédouane parce que ce n'est pas un travail de spécialiste sur lui, mais en tout cas, la traduction, moi, je trouvais que c'était assez extraordinaire parce qu'effectivement, il y a l'idée d'une érosion, mais aussi où on fouille quelque chose, en tout cas, étymologiquement parlant. Mais il ne faut pas oublier, effectivement, s'il y a une progression, un excès, il ne faut pas oublier que c'est pas un excès, si j'ose dire, qui se perd dans un horizon infini, mais c'est un excès qui va dans le monde, en fait. C'est pour ça qui va toujours plus dans le monde. C'est pour ça que, il y a vraiment bien cette réciprocité entre mon avancée dans le monde et la manière dont le monde s'inscrit en moi. Mais donc précisément, cette avancée dans le monde à la faveur de laquelle le monde s'inscrit en moi, suppose bien que j'avance dans le monde, voire même, si j'ose dire, comme une plante, que je creuse mon trou, si j'ose dire, beaucoup plus que je ne me déplace. Et moi d'ailleurs, et c'est ça d'ailleurs, c'est une manière aussi de répondre tout à fait à Ovidio, disons, à laquelle je n'avais pas pensé, c'est que le mouvement, encore mieux que la réalisation, le mouvement pratique dont moi je parle, n'a rien à voir avec un déplacement. C'est ça qui est tout à fait extraordinaire. Évidemment, le mouvement par lequel adviennent au fond des possibilités et l'enrichissement qui a lieu, ça ne se donne pas du tout comme un simple déplacement, mais comme un véritable mouvement d'approfondissement, en fait. Il y a vu, si je veux dire, non pas en extension, mais en intention. C'est pour ça que l'idée d'approfondissement ou d'enracinement me paraît en fait la bonne métaphore, l'enracinement même, plutôt à la limite encore que l'approfondissement, parce que l'enracinement, c'est ce mouvement de la plante qui ne se déplace pas. Une plante, ça se meut sans se déplacer, hein, en réalité. Si je veux dire, comme la personne qui s'exerce, qui fait toujours les mêmes déplacements, et qui pourtant avance intensivement dans sa propre pratique. Donc c'est pour ça que le vocabulaire de l'enracinement et du coup de l'affluent, comme cette espèce d'érosion qui va chercher dedans, qui se meut sans se déplacer, hein, si j'ose dire, toute personne qui pratique est une plante bien plus qu'un animal. Dans ce sens-là du terme, c'est l'animal, c'est celui qui a rentré ses racines dans lui pour pouvoir se déplacer. Donc voilà, là, ontologiquement, nous sommes des plantes, mais ontologiquement, nous sommes des animaux. Donc c'est un peu l'idée que, voilà. Et il y avait une troisième question, je ne me souviens plus, que tu me posais.
Non, c'était juste pour savoir si tu faisais finalement référence
à ça. Oui, tout à fait. Eh bien oui, bien sûr. Alors là, bien sûr, tout à fait. Alors, ravisson, ça, c'est la conception de l'habitude qui, justement, le grand génie de ravisson, c'est d'avoir bien vu qu'on n'agissait pas par habitude, mais grâce à l'habitude. Autrement dit, l'habitude, ce n'est pas un endormissement, mais c'est au contraire une possibilité. Donc ça, c'est tout à fait extraordinaire. Alors, bien sûr qu'il y a quelque chose de très commun avec Ravesson et Pichy. Alors là, tout de suite, si tu me demandais, je l'ai fait à un moment donné, je vais travailler, ça va venir. Si tu me demandais la relation exacte entre les deux, là, je t'avoue que j'aurais un petit peu du mal à te la restituer rapidement. Mais bien sûr que ça va dans le même sens. Il y a des choses, notamment la grâce, comme facilité du mouvement, précisément, pour moi, en fait, la grâce, quand on atteint à cette adresse qui se manifeste parce qu'on tient du monde, c'est grâce à quoi on peut agir sur lui. C'est pour ça qu'on est si ajusté au monde et c'est pour ça que c'est extraordinaire de voir des gens qui agissent avec adresse, évidemment, parce que leurs possibilités viennent du monde et donc ça se voit phénoménologiquement en tant qu'ils sont adaptés. Et au contraire, la maladresse garde une distance à l'égard du monde, la manière de voir un peu les choses comme ça. Mais donc, bien sûr, l'habitude, non pas par laquelle on agit, mais grâce à laquelle on agit, est tout à fait essentielle. Donc, chose que c'est que ça. Donc, bien sûr. Merci pour tes questions, c'est tout à fait intéressant.
Merci beaucoup, Charles-André. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut prolonger un peu la discussion, Alexis, Lydiou ou d'autres, le public.
J'ai quelques questions. Il est déjà assez tard et que je pense qu'on est tous, on est tous bien enrichis par tout ce qui a été dit. Je vais peut-être les garder par écrit, peut-être celles sont plus claires aussi si je.
Si je
ça permettra de les formuler un peu plus clairement.
Alors, oui, c'est vrai qu'il va être 20h, donc on a un peu. Bon, c'était la dernière séance, donc c'est normal aussi, on a voulu faire durer un peu le plaisir. On peut arrêter là-dessus. Je remercie encore beaucoup Charles-André et Ovidiu d'avoir été présents aujourd'hui et d'avoir pu discuter lors de cette séance. Avec plaisir. Vous pouvez revenir quand vous voulez. et en fait, voilà. Donc, je clôt aussi la saison à Alexis en rappelant que évidemment, on essaiera de continuer ce séminaire l'année prochaine. Ah oui, si, juste une dernière chose avant de clore. Il y a aussi un très bon article de Charles-André justement dans le Alter de numéro 26. Sur la pratique chez Patochka, qui était déjà une mise en place un peu de certains concepts et que je recommande évidemment à tout le monde. Voilà. Et donc, un grand merci encore à tous les intervenants de cette année, à tous les répondants et les discutants aussi, et à toutes les personnes, tous les étudiants qui ont pu participer, assister à ces séances. Donc, merci. Merci encore.
Merci à tout le monde.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
À bientôt. Au revoir.